Chapitre 10e, la dernière révolte. Martin Numa ne dit plus rien et se promena, selon son habitude, de long en large dans la pièce, fumant une cigarette. Les prisonniers le regardaient, suivaient tous ses mouvements, leurs yeux scandaient ses pas. Ils le regardaient non pas avec haine, comme tout à l'heure, mais avec effroi, avec stupeur. Aux yeux de ces bandits, Martin Numa paraissait plus grand encore, plus redoutable. Ah, ils étaient venus, eux, chez lui, mais lui, en revanche, était allé chez leur chef. Eux n'avaient pas réussi dans leur entreprise. Ils étaient prisonniers de Martin Numa. Mais Martin Numa, lui, avait mené selon son désir son expédition contre le commandant. Il avait complètement réussi et le leur faisait comprendre. Les deux misérables maintenant se sentaient absolument perdus, car ils ne pouvaient se douter de la façon dont Martin Numa avait été amené à connaître ce que renfermait le grenier. Il ne pouvait savoir comment Martin Numa avait surpris le secret de la porte de fer dissimulée dans la haute cheminée du salon du commandant. Certainement, dans leur effroi, il s'imaginait que la visite de Martin Numa chez le commandant était tout autre qu'en réalité elle ne fut. Car Martin Numa leur donnait à entendre qu'il avait pris connaissance de tous les secrets non seulement de la villa du commandant et de la villa voisine, mais aussi des gens qui habitaient ces deux demeures. Et avec terreur, ayant entendu parler des moustaches du commandant, il se demandait si vraiment le roi des détectives s'était emparé de cet homme, du commandant, de leur chef, et lui ayant arraché les moustaches, avait vu qui jouait ce rôle, reconnu celui qui se faisait passer pour le commandant Remondin à Fontainebleau. Et si cela était, les bandits à présent, devant les paroles de Martin Numa, n'en pouvaient douter, si cela était, c'est que leur chef était pris, c'est que toute la bande était ou arrêtée ou détruite. Pour eux, en tout cas, c'était l'abandon des leurs. L'impossibilité d'être secouru, c'était la prison, la condamnation, c'était la fin. Alors ils furent absolument accablés. Maintenant, devant Martin Numa, il n'était plus que deux loques humaines. Martin Numa continua sa promenade régulière de son pas nerveux tout en fumant sa cigarette. Au bout d'un moment, il fit un signe à Prosper. Prosper s'approcha des deux prisonniers. D'un tour de main, il défit leurs liens, les débarrassa. Mais néanmoins, il les laissa attacher l'un à l'autre par un pied. « Levez-vous, » leur dit Martin Numa. « Nous sommes, nous, les serviteurs de la justice, les auxiliaires du bien. Nous ne sommes pas des bourreaux. » Les deux hommes furent un long moment avant de pouvoir faire usage de leurs membres, tant les liens les avaient raidis, ankylosés. Enfin, ils firent un pas dans la salle. Martin Numa surprit un mauvais regard. « Halte là, mes gaillards, vous vous trompez. Mon acte d'humanité n'est pas un acte de faiblesse. » « Ne vous attardez pas dans cette erreur. Je vous l'ai assez fait entendre, je suppose. Actuellement, vous n'avez plus rien espéré du côté du commandant, de votre chef. » L'un des misérables alors osa parler. « Allons, vous nous dites cela, mais rien ne prouve que ce soit vrai. Ah, de la résistance, parfait. Oui, vous nous tenez, nous sommes dans vos mains. C'est indiscutable. Et c'est assurément un fait qui n'a pas besoin d'être prouvé davantage, celui-là. » « Nous nous sommes, nous, laissés pincer. Tant pis, c'est notre faute. C'est notre peau qui paiera. Mais le chef... Oh, le chef, c'est une autre affaire. » Martin Numa s'arrêta devant cet homme. « Oui, » reprit le prisonnier, « oui, le chef est aussi fort que vous. Le chef vaut, Martin Numa. Et tout ce que vous nous dites depuis un moment, ou rien, ce sera la même chose pour nous. Bon, je ne dirai plus rien. Vous êtes entré chez le commandant, et puis après... Est-ce que nous ne sommes pas entrés chez vous ? Ah oui, puisque vous y êtes encore. Mais que vous soyez allé chez le commandant, que vous ayez vu la porte de fer de la cheminée et les cordes dans le grenier, et même la moustache du commandant, cela ne nous dit pas encore que vous ayez vaincu le chef. » Le prisonnier ajouta fièrement. « Nous le croirons abattu, défait, vaincu définitivement, que quand nous le verrons dans une caisse, la tête sur l'estomac. Jusque-là, vous pouvez parler, vous vanter, le chef est encore debout. » Et nous ne serions pas très surpris d'être délivrés par lui. » Et cet homme cria « Vive le chef !» Martin Numa leur mit la main sur l'épaule. « Bien, c'est très bien d'avoir confiance ainsi en son chef. » Puis il ajouta « Continuez donc à croire en votre chef, que vous me donnez comme rival. Je ne puis vous le défendre. Ce que je réclame de vous, c'est de ne pas me gêner et de ne pas me troubler. Je vous ai détaché pour ne pas vous faire souffrir inutilement. » Cependant, et je ne vous répéterai pas ceci, cependant, j'exige que vous vous teniez tranquille, à la première tentative de révolte, de rébellion, je serai dans la désolante obligation de vous brûler la cervelle. » Les deux bandits tressaillirent, mais par bravade ils essayèrent de ricaner. « Je vous brûlerai la cervelle, tout simplement, comme j'en ai le droit. » »« Le droit? Quel droit ?»« Des cambrioleurs se sont introduits dans cette maison. Ils ont été reçus à coups de revolver. Voilà tout. L'affaire sera vite close. Allons, il vaut mieux vous tenir tranquille. » Martin Dumas reprit sa promenade. « Allez donc chercher les effets, » dit-il à Prosper. Prosper sortit la pièce. Il laissa ainsi son chef avec les deux bandits.